raison que ce soit, temporairement ou non, durablement, projeté dans notre cercle de proximité. Moins que s'astreindre à aimer tout le monde, se tenir prêt à aimer n'importe qui. Parce que s'il se tient en face de nous, il est par définition notre prochain. Et parce que nous l'aimons, l'inviter pour lui donner la possibilité de croire afin qu'il soit sauvé et qu'il se réjouisse avec nous. Le verbe suivant a été dit tout à l'heure, accueillir, le deuxième verbe, accueillir. Accueillir au nom de Jésus. Nous imaginons tout de suite l'accueil dans nos locaux, ce qui est la moindre des choses à l'égard de qui vient nous visiter. Mais plus que cela, accueillir dans nos préoccupations, accueillir dans nos intentions, faire de la place. Comme Jésus avec la femme samaritaine, lorsqu'il se rend sur son terrain et entre dans ses sujets de préoccupation. Accueillir en allant vers l'autre, en ayant conscience de ce qu'on apporte avec nous. Si tu savais quel est le don de Dieu. Accueillir des pécheurs qui ont une certaine conscience de leur indignité, mais qui pour autant, chez nous, ne se sentent pas jugés. Troisième verbe. Pardon ? Baptiser. Baptiser. Baptiser ensemble. Discerner ensemble les disciples de Jésus. Des disciples qui s'interrogent. Que devons-nous faire, demande-t-il à Pierre ? Changer radicalement. Recevoir le baptême, rejoindre l'Église, c'est-à-dire être ajouté à la communauté. Nous devons prendre plus conscience de l'importance de cette étape qu'est le baptême. Ce n'est pas seulement un acte personnel, c'est un acte communautaire. Nous devons prier que l'Esprit travaille dans les cœurs. Nous devons encourager à passer la porte. Nous devons relayer l'appel de Dieu. Quatrième verbe ? Enseigner. Enseigner la maturité. Comme la semence qui tombe dans la bonne terre. Entrer dans le processus de croissance. Aller vers la maturité. Avec l'aide de Dieu, changer la nature du terrain, en prendre soin, le cultiver, le nettoyer pour le rendre favorable à la croissance. Le disciple qui vise la maturité pour lui-même et le disciple qui fait des disciples a le souci de les accompagner vers la maturité. Une maturité qui s'épanouit dans notre relation avec Jésus dès lors qu'il devient Seigneur de notre temps, Seigneur de notre argent, de nos relations, Seigneur de notre corps. Cinquième et dernier verbe, envoyer. Envoyer servir. À l'image du maître qui confie ses biens à ses serviteurs. Dieu se repose sur les chrétiens pour faire fructifier et croître ce qu'il leur a confié. Chacun selon ses capacités. Et aussitôt que cela leur est confié. Peu importe ce que nous avons reçu, peu importe si c'est peu ou beaucoup, il y a, dans ce que nous avons reçu, de quoi faire avancer le royaume de Dieu. Dieu nous équipe personnellement et il équipe son Église. Recherchez premièrement l'approbation du Maître et trouvez sa joie dans le service et la satisfaction du Maître. Répondre à son appel et se consacrer à son ministère. Faire une place à ce que Dieu appelle parmi nous et laisser partir ce que Dieu envoie ailleurs. Voilà donc un bref résumé de ce que nous avons dit en parcourant et en développant ces cinq verbes. Et en introduction de cette série sur ces cinq verbes, en tout début d'année, Fabrice nous avait interpellé au cours d'une prédication intitulée « Prions !» Point d'exclamation, « Prions !» Il nous avait incité à placer nos projets devant le Seigneur, en particulier notre projet d'Église. Fabrice nous avait cité ce verset de Jérémie 29, et qui se trouve exactement, on ne s'est pas concerté avec Fabrice, et c'est exactement à la suite de ce qu'il nous a cité ce matin, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets d'avenir, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Et donc, Fabrice nous avait cité ce verset de Jérémie 29 qui dit ceci, « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » Voilà tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Et maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ces paroles de Jésus, les dernières paroles de Jésus avant de quitter ses disciples, nous les avons citées une multitude de fois, lues et relues au cours de ces derniers mois, et elles inspirent très largement notre projet d'Église. Et peut-être que aujourd'hui, le mot le plus adapté au moment que nous vivons est le premier de ces mots. Allez. Et donc si nous avons introduit cette série de prédications, prions, peut-être nous pouvons la conclure par allons. Allons. Oui, mais alors où? Dans quelle direction? Pour y faire quoi? Et déjà, en ce 2 juillet, l'ambiance est quand même plutôt vacances. Il paraît que le beau temps est là. Juste derrière ces nuages, à partir de demain, et tout notre être va donc bientôt inspirer qu'à une chose, profiter du soleil, des vacances, du repos. Et donc, aller commencera, pour la plupart d'entre nous, par aller en vacances. Bien entendu, j'ai rien à dire contre ça. Moi-même, je prendrai des vacances. Et il n'y a rien que de très légitime dans tout ça. Mais il se pourrait bien que, même en vacances, ma route croise celle de mon prochain. Je ne sais pas si vous connaissez ce sketch de Raymond Devos, qui, en pleine nuit, reçoit un coup de fil de son médecin et qui lui dit « Annonce, j'ai reçu les résultats de votre analyse. Vous avez le syndrome du tueur. » Il dit « C'est dangereux ?»« Non, pour vous, ça va. » Mais pour les autres, ils doivent se sentir visés. Et donc, il passe toute la nuit à ruminer avec ça. Et le matin, il se réveille en disant « Il faut que je tue quelqu'un. » Et qui vais-je tuer? Le premier venu. Et il sort dans la rue et il dit « Je sors dans la rue et voilà sur qui je tombe. » Le hasard fait bien les choses, le premier venu. Eh bien, le premier venu, c'est mon prochain. Mon prochain, c'est le premier venu. Il se pourrait aussi que, sur mon lieu de villégiature, je sois placé en situation d'accueillir la souffrance ou le questionnement de quelques personnes que Dieu aura placées sur ma route. Fabrice a cité quelqu'un tout à l'heure, « Je ne veux pas mourir sans Dieu. » Ça peut arriver à tout moment. À propos du baptême, comme Chantal et moi allons camper pas très loin de notre orange, je pouvais envisager d'y baptiser quelques jeunes croyants, mais je vous l'accorde, c'est probablement pas une éventualité qui a beaucoup de chances de se produire. Ben, je vous rappelle quand même que j'ai un homonyme dans la Bible à qui la chose est déjà arrivée. Enseigner la maturité, ça par contre, c'est quelque chose auquel je peux être confronté, à commencer par moi-même. Les vacances nous offre une période particulièrement adaptée pour prendre du temps, lecture de la parole de Dieu, des livres chrétiens. Et certains d'entre nous fréquenteront peut-être des camps chrétiens où ils pourront recevoir des autres, mais aussi communiquer à d'autres l'enseignement qu'ils auront reçu dans l'Église ou au cours de la lecture. Et bien entendu, les vacances sont des moments privilégiés pour passer du temps avec nos enfants, les faire grandir eux aussi dans la maturité. Quant à envoyer, servir, quel meilleur moment que les vacances pour se placer devant le Seigneur et lui demander « Qu'attends-tu de moi dans l'année qui vient après ce moment de repos ? » Dans quel domaine puis-je te servir ? Quel projet désires-tu mettre sur mon cœur ? Auprès de qui veux-tu m'envoyer ? Montre-moi le don par lequel je peux te servir. » Alors bien sûr, je ne suis pas là pour refaire l'emploi du temps des vacances tel que vous l'avez prévu, et je suis sûr qu'il est tout à fait intéressant, mais plutôt nous faire prendre conscience du sens de ce « aller ». Il s'agit moins d'un envoi dans un lieu donné que d'inscrire dans notre conscience que tout ce programme dont nous venons de parler, inviter, accueillir, baptiser, enseigner, envoyer, c'est notre programme de disciples de Jésus pour la vie de tous les jours. Travail, famille, transport, vie personnelle, Donnez-moi 1 kilo de pommes, s'il vous plaît. Et j'en profite pour vous remettre une petite invitation à cette fête de Noël. Le texte original que nous avons lu serait plus proche de ceci. En allant, faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et donc ce n'est pas aller en tel lieu, et quand vous serez arrivés, faites des disciples, baptisez-les, etc. Non, c'est en allant, c'est en chemin, dans la vie ordinaire. Bien sûr, l'aspect missionnaire n'est pas totalement absent de ce concept. Et on sait que certains des disciples à qui Jésus s'adresse auront ce ministère de parcourir le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Mais le fait est que les 12 apôtres, dans un premier temps, et pour pas mal de temps, vont rester, n'aller nulle part, et vont rester à Jérusalem. L'ordre qui est donné par Jésus ici n'est donc pas d'aller où que ce soit de précis, mais plutôt de retourner à la vie ordinaire, au contact des hommes que lui mettra sur notre route. Et s'il y a un ordre donné dans cette phrase, il se situe plutôt dans l'expression « faites des disciples », qui, elle, est vraiment à l'impératif, alors que le verbe « aller » est plutôt au participe présent, « en allant, faites des disciples ». Peut-être que, finalement, nous ne sommes pas très loin de cette expression moderne que nous employons à longueur de journée, « aller » en début de phrase, « aller au boulot »,« aller, aller à table »,« aller du calme », »,« aller, faites des disciples ». Même nos amis qui partent aujourd'hui nous ont dit ce matin « allez baptiser, allez faites des disciples ». Une chose est sûre, l'impératif porte sur « faites des disciples ». En allant, faites des disciples, les baptisants et les enseignants. Tout au long du chemin, faites des disciples. Tout au long de votre vie, faites des disciples. Il n'est donc pas ici question de sortir de l'Église pour aller vers les autres. Et si c'est cette notion-là que nous portons en nous, c'est que nous avons peut-être fait de l'Église un bastion dans lequel nous nous tenons à l'écart et de laquelle, de temps en temps et en ordre groupé, nous sortirions pour aller faire quelques disciples. Au contraire, il s'agit d'investir la société, d'imprégner le monde de nos jours, de conquérir du terrain à l'ennemi, d'accepter de le faire seul et avec l'aide de Dieu, là où il nous a passés. Nous ne sommes pas seulement l'Église quand nous sommes ensemble. Nous sommes, lorsque nous sommes dispersés et seuls au milieu du monde, nous sommes aussi l'Église. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre. C'est ce que dit Pierre aux chrétiens dans sa première épître. Ce « toujours prêt » change beaucoup de choses. Dans mon témoignage personnel, j'ai vécu à quelques semaines d'intervalle deux expériences significatives. Dans ma première expérience, une occasion de témoigner m'a été servie comme sur un plateau. Comme une occasion comme vous n'en avez peut-être pas 10 dans votre vie. Mais moi, je n'étais pas prêt. Et vous le savez, le temps de changer de logiciel... Eh bien, l'occasion était passée. Et quelques semaines plus tard, une seconde occasion s'est présentée avec la même personne, et celle-ci beaucoup moins franche, beaucoup moins facile que la première. Mais cette fois, j'étais prêt. Et le message que je voulais lui transmettre est passé comme une lettre à la poste. Nous tenir toujours prêts, comme le dit Pierre. En avoir toujours en arrière-plan cette vigilance, ça change pas mal de choses dans notre capacité à justifier notre espérance, comme le conseille Pierre aux chrétiens de son époque. Est-ce trop contraignant ? Alors, réfléchissons, nous avons appris depuis notre plus tendre enfance à bien regarder à droite et à gauche lorsque... Nous traversons la rue et aujourd'hui, cette vigilance est sous-jacente quand nous sortons sans même y penser. Elle n'encombre pas notre esprit en permanence. Nous ne sommes pas continuellement à l'affût de la voiture qui peut venir de la droite et à la gauche, mais cette vigilance surgit au moment opportun, naturellement, pour jouer son rôle. Et tout ça, juste parce qu'un jour, nous avons décidé que ce serait utile tout au long de notre vie. Et que nous avons consacré quelques heures, quelques jours à nous y exercer. La pratique s'est ensuite entretenue d'elle-même parce qu'elle a fonctionné jour après jour. Et pour amorcer la pompe, peut-être puis-je vous proposer de rajouter cette pensée à la liste des tâches que nous faisons mentalement chaque matin pour la journée, nous tenir prêts pour rendre compte de l'espérance qui est en nous. Si nous prenons une telle décision, nous constaterons très vite que toute timidité, toute appréhension seront très vite balayées. Lorsque nous lisons les Actes, lorsque nous lisons les Épîtres, nous ne trouvons pas trace d'une église retranchée derrière ses murs, d'une église calfeutrée et à l'abri du monde. Ça a malheureusement été le cas en divers lieux, à diverses époques, un peu plus tard, et pas toujours à cause des persécutions. Les chrétiens ont souvent pensé qu'il valait mieux se préserver de la contamination venant de l'extérieur, plutôt que de lui apporter à cet extérieur le vaccin contre le mal dont lui-même jouissait. Heureusement que les premiers chrétiens n'ont pas agi ainsi et sont partis, message évangélique sous le bras, à la conquête du monde de leur temps. Nous n'avons pas trop à nous soucier de bâtir l'Église, ni de sélectionner les disciples qui la composeront. Jésus a dit qu'il s'en occuperait lui-même. « Je bâtirai mon Église ». Et fait plus marquant encore, c'est à Pierre qu'il le dit. Pierre qui fut un des tout premiers responsables d'Église. Non, notre rôle à nous, c'est de faire des disciples. Disciples qui, eux, feront l'Église avec nous. Allez, faites des disciples. Et je voudrais terminer donc sur le verset de Jérémie 29 que Fabrice nous avait lu en introduction. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Prions et allons.
Je crois qu'on va terminer ce culte sur ces paroles d'envoi que vient de nous donner Philippe en terminant sa prédication. Nous pouvons laisser résonner dans nos esprits et dans nos pensées ce que le Seigneur nous donne. Je vais juste laisser la place à Émilie qui va nous donner quelques infos, quelques détails pratiques pour